Bonjour à tous, Yacouba Ouidraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. On sommaire en cette matinée du lundi 12 août 2024. Le président rwandais Paul Kagame a prêté serment hier pour un quatrième mandat, assurant que la paix régionale est sa priorité. En République démocratique du Congo, le bilan de deux attaques attribuées aux rebelles ADF grimpe à au moins 18 morts selon des sources locales. La situation des droits humains au centre de la visite au Cameroun du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.
Le Cameroun est aujourd'hui confronté à des défis multiples et complexes en matière de droits humains.
Volker Türk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, reportage à suivre dans la partie magazine de cette édition. Des centaines de Palestiniens continuent de fuir des quartiers de Khan Younes dans le sud de Gaza. L'armée israélienne prévoit de nouvelles opérations au lendemain d'un raid sur une école de filles. En sport, les Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont éteints hier. Les États-Unis se classent premiers au tableau des médailles. En Afrique, le Kenya est le mieux classé de tous. Élisée Oukpatine fera le point sous peu dans notre dernier journal des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais d'abord, le journal. Au Rwanda, le président Paul Kagame a prêté serment dimanche pour un quatrième mandat après avoir obtenu plus de 99% des voix à l'élection du mois dernier. C'était en présence de plusieurs dirigeants africains. Mohamedou Mfa.
Plusieurs dizaines de chefs d'État et d'autres dignitaires africains ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie d'investiture organisée dimanche après-midi dans un stade de 45 000 places bondé de la capitale Kigali. M. Kagame, 66 ans, a prêté serment devant le président de la Cour suprême, Faustin Tesiliayo, s'engageant à préserver la paix et la souveraineté nationale et à consolider l'unité nationale. Il a remporté la présidentielle du 15 juillet avec 99,18% des voix, selon la commission électorale. M. Kagame, après avoir atteint la limite de deux septennats, a pu se représenter en 2017 à la faveur d'une révision constitutionnelle instaurant le quinquennat avec le maintien d'un maximum de deux mandats. Cette réforme peut lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2034.
En République démocratique du Congo, deux attaques attribuées aux rebelles ADF affiliés au groupe État islamique ont fait au moins 18 morts et 14 disparus, un bilan qui pourrait évoluer. John Lydon.
Les attaques ont eu lieu samedi sur le territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. Le bilan de ces attaques de samedi dans la localité de Mamové est revu à la hausse. De 10 à 18 personnes tuées, a déclaré Kinos Kaduo, un leader de la société civile. Il a ajouté que 14 personnes sont portées disparues, 4 maisons et 2 motos ont été incendiées. Charles Ndou Kado, fonctionnaire local, a estimé que là, nous sommes au-delà de 18 personnes tuées. Mais personne ne peut aller récupérer les corps qui gisaient encore sur le sol. Les ADF, forces démocratiques alliées d'anciens rebelles ougandais musulmans, sévissent depuis 3 décennies dans l'est de la RDC. Depuis fin 2021, les armées congolaises et ougandaises mènent des opérations conjointes contre les ADF sans réussir pour le moment à empêcher les attaques meurtrières contre les civils. Les ADF ont fait allégeance en 2019 au groupe État islamique qui les présente comme sa branche en Afrique centrale.
En Ouganda, le bilan de l'effondrement d'une vaste décharge samedi à Kampala s'est alourdi hier à 19 morts, dont 5 enfants sur fond d'accusations d'incurie de la part des autorités. Le point avec Alexandrine Oloyan.
Le commissaire Yassine Didé a indiqué hier que le bilan s'établit à 19 morts, dont 5 enfants, ajoutant que la mission de sauvetage se poursuit, mais avec peu d'espoir de trouver d'autres survivants. Des maisons, des personnes et des animaux d'élevage ont été engloutis sous des montagnes de déchets à la suite de l'éboulement provoqué par de fortes pluies samedi aux premières heures de la journée. Le maire de Kampala, Erias Lukwago, avait déclaré que la décharge de Kitezi, un site de 14 hectares dans le nord de la capitale, était pleine à craquer, ajoutant que c'est un désastre et cela devait arriver, accusant des fonctionnaires d'avoir détourné l'argent qui aurait dû être utilisé pour gérer la décharge. Le président Yoweri Museveni a ordonné aux forces spéciales de l'armée de participer aux recherches et a demandé une enquête sur qui avait autorisé des gens à vivre près d'un tas de déchets potentiellement toxiques et dangereux. La décharge de Kitezi, créée en 1996, accueille la quasi-totalité des déchets collectés à Kampala et reçoit environ 1 500 tonnes de déchets par jour.
La Somalie et l'Éthiopie, pays voisins aux relations tendues, se retrouvent pour une nouvelle série d'entretiens ce lundi à Ankara, en Turquie. C'est ce qu'a annoncé le ministère turc des Affaires étrangères qui indique que ce processus d'Ankara vise à éviter que le conflit entre Addis Abeba et Mogadiscio s'envenime. Addis Abeba a conclu en janvier un protocole d'accord avec le Somaliland pour l'accès à la mer, s'engageant à reconnaître l'indépendance de ce territoire qui s'est unilatéralement séparé de la Somalie. Cet accord a ouvert une nouvelle crise entre ces deux voisins d'Afrique de l'Est qui se sont affrontés par deux fois au dernier siècle. En Algérie, la plupart des incendies qui s'étaient déclarés vendredi dans les zones de Tizi Ouzou et Béjaïa en Kabylie dans le nord-est ont été maîtrisés hier soir selon la protection civile. Des résidents dont le nombre n'a pas été précisé ont été évacués à l'approche de feux dans les localités de Waliya dans la région de Tizi Ouzou, selon le directeur général des forêts Jamel Tawaria. À partir de vendredi, de nombreux incendies ont éclaté dans le centre-est de la région de Tizi Ouzou, mais la plupart des foyers ont pu être contrôlés grâce à d'importants moyens humains et matériels terrestres et aériens, selon la protection civile.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un incendie s'est déclaré hier soir dans le système de refroidissement de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par les forces armées russes. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'en être responsables, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui dispose d'une équipe sur place. Il n'y a pas d'impact sur la sûreté nucléaire. Le responsable de l'administration mise en place par les Russes dans la région de Vladimir Rogov a indiqué ce lundi que l'incendie a été complètement éteint. Pendant ce temps, des milliers de soldats ukrainiens participent à l'incursion en cours dans la région russe de Koursk. Selon un haut responsable, la Russie a su de son côté stopper des avancées en profondeur sur son sol des troupes de Kiev. Des centaines de Palestiniens ont fui hier dimanche des quartiers de Khan Younes dans le sud de Gaza. L'armée israélienne prévoit de nouvelles opérations au lendemain d'un raid sur une école considérée comme l'un des plus meurtriers depuis le début de sa guerre contre le Hamas. Fatouma Kalala Alimassi.
Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne dit vouloir déloger les combattants du Hamas de Khan Younes, grande ville déjà visée par plusieurs campagnes d'envergure. Tôt dimanche, Israël a appelé les civils à quitter la zone d'Al-Jala, définie auparavant comme zone humanitaire, poussant de nouveau sur la route des familles déjà déplacées plusieurs fois après plus de 10 mois de guerre. L'armée israélienne affirme que le Hamas a implanté une infrastructure terroriste dans cette zone et qu'elle s'apprête à mener des opérations. Dans la ville de Gaza, les secours s'activent encore au lendemain d'une frappe israélienne qui, selon la défense civile, a tué 93 Palestiniens dans une école abritant des déplacés. L'armée israélienne a affirmé que cette école était utilisée par le Hamas et le djihad islamique pour mener des attaques contre ses soldats et affirmé y avoir éliminé au moins 19 terroristes. Jeudi, les pays médiateurs Qatar, États-Unis et Égypte ont appelé à la reprise le 15 août des discussions sur une trêve à Gaza. Associé à sa libération des otages, Israël a donné son accord. Le Hamas a réclamé l'application du plan Biden pour une trêve plutôt que plus de négociations.
Le Hezbollah a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi avoir lancé des roquettes sur le nord d'Israël après des frappes israéliennes sur le sud du Liban qui ont tué 3 de ses combattants et fait 12 blessés. Des échanges de tirs opposent presque quotidiennement le mouvement pro-iranien à l'armée israélienne depuis le début de la guerre à Gaza en octobre. Ces violences ont été exacerbées par l'assassinat le 30 juillet du chef militaire de la formation libanaise revendiquée par Israël et celui du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh à Téhéran, à l'État israélien. Le taux de chômage des jeunes dans le monde au plus bas depuis 15 ans, 13% en 2023, devrait encore baisser. C'est ce qu'indique l'Organisation internationale du travail dans un rapport publié ce lundi. L'OIT met aussi en garde contre le nombre préoccupant de jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Elle avertit que la reprise de l'emploi après la pandémie de COVID-19 n'est pas universelle. Ce taux de chômage des jeunes devrait encore diminuer pour s'établir à 12,8% en 2024 et 2025 selon l'OIT, qui ajoute toutefois que la précarisation du travail est à l'origine d'une anxiété croissante. Au Venezuela, la chef de l'opposition Maria Corina Machado a appelé hier à manifester samedi 17 août pour faire reconnaître la victoire de l'opposition à la présidentielle du 15 juillet. Selon elle, le Conseil national électoral a ratifié le 2 août la victoire du président sortant Nicolas Maduro avec 52% des voix sans rendre public le décompte exact et les procès-verbaux des bureaux de vote. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Je le disais en titre, après deux semaines de victoire, d'émotion, de déception aussi parfois, les Jeux Olympiques Paris 2024 ont pris fin hier dimanche avec l'attribution des dernières médailles arrachées depuis Boyko au Bénin. Élisée Onkwatine fait le point.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier numéro du journal des Jeux Olympiques d'été de Paris qui se sont achevés hier dimanche avec une cérémonie de clôture grandiose au Stade de France qui a conduit à la passation entre Paris et Los Angeles, ville hôte de la prochaine édition de ces JO de 2028. Pendant un peu plus de 15 jours, près de 11 000 athlètes se sont affrontés dans une course sans merci aux médailles. Et c'est la finale du tournoi féminin de basketball remportée par les États-Unis qui ont clôturé la compétition. Les Américaines, vainqueurs 67-66 des Françaises dans un match serré et mémorable, sauf le 8e titre olympique d'affilée. Mais avant, l'Italie a remporté la médaille d'or au volley-ball féminin. Une première grâce à son succès en finale 3-7-0 aux dépens des États-Unis. Du côté du handball masculin, c'est le Danemark qui remporte l'or après avoir battu l'Allemagne 39-26. Cette dernière journée a débuté par le marathon au niveau des dames. Et c'est la néerlandaise Sifan Hassan qui prend l'or devant l'éthiopienne Asifa et la kényane Hélène Obiri. Les athlètes africains ont aussi rayonné durant ces derniers jours dans les épreuves d'athlétisme, notamment le relais masculin. Les Botswanais ont pris la médaille d'argent sur le 4x400 mètres. En revanche, la Kenyane Faith Kipyegon a remporté la médaille d'or sur le 1500 mètres, son troisième titre consécutif après ses succès à Rio en 2016 et à Tokyo il y a 3 ans. Une performance hors norme. Et juste après, Emmanuel Wanyoni chauffe le 800 mètres, de quoi permettre au Kenya d'engranger au total 11 médailles en athlétisme, dont 4 en or, meilleur pays africain des JO. Et en dehors du Kenya, d'autres pays africains ont réalisé de belles performances. On retrouve justement notre envoyé spécial sur les Jeux, Amine Birouk, qui nous fait le point de la participation des pays africains.
Ils sont 12 pays sur 54 appartenant à notre continent à avoir réussi à intégrer le tableau des médailles lors des Jeux de Paris 2024. Au total, l'Afrique a remporté 39 breloques, dont 13 en or. Un bilan presque similaire comparativement aux JO de Tokyo, où les multiples délégations du continent avaient remporté 37 médailles, dont 11 du métal le plus précieux. La prime à la performance revient au Kenya, qui a su maintenir son standing en athlétisme avec 11 médailles, dont 4 en or. Le pays des hauts plateaux occupe ainsi la 17e place au tableau des médailles. L'Algérie effectue une belle progression dans le sillage des titres olympiques de Kéliane Emour et de la boxeuse Imen Khelif. Idem pour le Botswana et le Maroc qui ont augmenté leur présence sur le podium par rapport aux précédents JO. En revanche, l'Égypte, la Tunisie, l'Ouganda et surtout l'Éthiopie et l'Afrique du Sud ont quelque peu reculé dans la hiérarchie mondiale. Pendant 15 jours, l'Afrique du sport aura vibré aux exploits de champions et championnes de la trempe de Faith Kipyegon, Béatrice Tchebel, Sophie El-Bakrali, de la nageuse sud-africaine Tatiana Smith, du pentathlonien égyptien Ahmed El-Guindi, du taekwondiste tunisien Feras Katoussi ou du coureur de 200 mètres botswanais Letsile Tebogo. Elle a suivi avec passion les exploits en football des Lions de l'Atlas, quatrième pays africain à gagner une breloque dans le tournoi de foot des JO, après le bronze du Ghana en 92 et les titres du Nigeria en 96 et du Cameroun en 2000. Paris 2024 a prouvé que l'Afrique avait de l'ambition, du caractère et de la personnalité, mais qu'elle avait aussi des lacunes rédhibitoires dans son sport, à combler avec du travail, de la rigueur et un peu plus de sérieux, histoire de nous projeter avec plus d'ambition à Los Angeles dans 4 ans, en 2028. Depuis Casablanca, Amine Birouk pour la VO Afrique.
Merci Amine. Le continent africain a donc fait mieux par rapport à l'édition précédente, mais très loin des États-Unis qui, sans surprise, arrivent en tête avec un total de 126 médailles, 40 en or, 44 en argent et 42 médailles de bronze, devant la Chine qui totalise 91 médailles et le Japon classé 3e avec 20 médailles d'or. La France, pays hôte, est 5e avec 64 médailles, dont 16 médailles en or, 26 en argent et 22 en bronze. Voilà, c'est tout pour ce journal des JO. Plus d'informations, c'est sur notre site internet voafrique.com. A tout de suite.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour au Cameroun. C'est dans un contexte de dénonciation des cas de violation des droits de l'homme que le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, vient de boucler une visite officielle dans le pays. La société civile et l'opposition ont soulevé la restriction des libertés publiques dans un contexte préélectoral. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Gélentap.
Le Cameroun est aujourd'hui confronté à des défis multiples et complexes en matière de droits humains.
Ce constat est de Volker Türk, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, en visite au Cameroun. Le diplomate onusien a déploré la situation dans les deux régions anglophones.
Les informations continuent de faire état de violations des droits humains et d'atteintes à ces droits, notamment d'homicides, de mauvais traitements et de tortures, d'enlèvements contre rançon et de restrictions à la liberté de circulation. L'imposition de jours de confinement par les groupes séparatistes empêchant les enfants de se rendre à l'école et les populations d'accéder à leurs moyens de subsistance au risque de se faire tirer dessus est inacceptable et doit être fermement condamné.
Durant son séjour, un collectif d'avocats a alerté sur le sort de Steve Akam, dit Raymond Kota, un activiste camerounais arrêté au Gabon et conduit au Cameroun et dont on est sans nouvelles. Maître Hippolyte Méli, avocat.
Vous voyez quelqu'un qui vit normalement au Gabon, mais qui est conduit de force en territoire du Cameroun sans qu'on sache exactement quelle est la procédure qui a commandé ce déplacement forcé. Nous pensons que les autorités gabonaises n'ont pas respecté les procédures et il ne nous souvient pas qu'il y ait une convention bilatérale entre le Gabon et le Cameroun qui permet ce genre de choses. Donc, on estime que lorsque c'est des États ou des administrations des États qui s'impliquent pour déplacer les êtres humains de manière forcée, ça devrait suivre une procédure légale.
Jusqu'ici, les autorités camerounaises et gabonaises n'ont fait aucune déclaration sur le sort de ce jeune Camerounais qui, depuis le Gabon, critiquait le pouvoir de Yaoundé à travers le réseau social TikTok. Interpellé sur la situation, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'est montré très réservé.
Ça, c'est aussi la tâche de mon bureau ici, de suivre ça, de faire le monitoring et d'être en contact avec tout membre de la société civile et les institutions étatiques pour que on peut faire face à justement les défis que vous avez mentionnés où il y a des arrestations et des choses comme ça. Et on a quand même un bon rapport avec les institutions étatiques pour faire le suivi de tous ces cas.
Par contre, sur les soupçons de violation des droits de l'homme dans le cadre de la crise anglophone, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a indiqué, je cite, qu'il est essentiel que les auteurs soient traduits en justice au terme d'enquêtes indépendantes, rapides et transparentes. Fin de citation. Depuis 2016, les affrontements entre des groupes séparatistes, d'autres groupes armés et les forces de sécurité ont fait des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés et plus de 700 enfants privés de leur droit à l'éducation, d'après les Nations Unies. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les commerçants nigériens, face aux conséquences des manifestations d'ampleur contre l'inflation et d'autres
difficultés gériatriques économiques. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement du Nigeria a déclaré que les troubles ont coûté à l'économie plus de 324 millions de dollars par jour. Le Nigeria traverse une grave crise économique alors que le président Bola Ahmed Tinubu a mis en place une série de réformes économiques, dont la suspension de la subvention sur le carburant. Les populations en colère face à l'inflation qui sévit depuis des années se sentent prises en otage. Davantage avec Yeni Niwa.
L'inflation galopante, la faim qui s'étend et les emplois qui se raréfient ont ébranlé le gouvernement du Nigeria. Les habitants ne cachent plus leur colère. Antonia Arosanwo, commerçante, déplore l'augmentation des prix des transports.
Je suis en colère, c'est ennuyeux. D'ici à Odjelegba, avant c'était 300 naira. Maintenant, ils prennent 700 naira et nous disent que nous ne devrions pas parler, que nous devrions rentrer. Comment pouvons-nous rentrer alors que mes enfants ont faim?
Presque tous se plaignent d'une seule chose, le prix du carburant. Omega Astou, conducteur de minibus.
Les choses ont changé. Si nous n'augmentons pas le tarif, nous perdons. Et le carburant à lui seul consomme tous nos revenus. Le carburant d'ici à Ojulegba coûte 5000 naira. Alors si vous faites le calcul, comment puis-je faire des bénéfices? Nous devons donc augmenter le prix des billets pour pouvoir rentrer dans nos frais. Et nous devons aussi gagner de l'argent pour la nourriture.
La fumée des manifestations obscurcit les espoirs des gouvernements de mettre fin aux subventions au carburant, car la stagnation de la croissance économique qui creuse des trous dans les budgets rend la vie des citoyens plus difficile. Bismarck Rewan, expert en finance.
La suppression ou la réduction des subventions est un travail en cours et vous devez maintenant l'introduire progressivement de manière à savoir, premièrement, ce que le gouvernement peut se permettre, deuxièmement, ce que la population peut se permettre et troisièmement, si vous recyclez réellement les revenus que vous avez pris à la population dans les poches des consommateurs et si vous les utilisez pour leur propre avantage à d'autres égards.
Presque tous les pays du monde bénéficient d'une forme ou d'une autre de subvention à l'énergie dont le coût atteindra le chiffre record de 7 000 milliards de dollars en 2022, soit 7,1% du PIB selon le Fonds monétaire international. Les experts dénoncent les subventions comme étant des outils contondants qui donnent plus aux riches propriétaires de voitures qu'aux pauvres et qui sont sujettes à la corruption et néfastes pour l'environnement.
Créé en 1972, l'Institut de recherche et des hautes études islamiques Ahmed Baba de Tombouctou œuvre depuis quelques années à cataloguer ses 38 245 manuscrits. Dans ce projet, il bénéficie de l'accompagnement de l'ambassade des États-Unis au Mali. L'objectif final étant de rendre disponible le savoir contenu dans les manuscrits aux chercheurs du monde entier à travers Internet. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Institut de numérisation, de conservation physique des manuscrits, de leur enseignement et de leur catalogage, l'Institut de recherche et des hautes études islamiques Ahmed Baba de Tombouctou a monté avec des partenaires américains un projet de vulgarisation des manuscrits soutenu par les États-Unis à travers leur ambassade au Mali, comme le soutient son directeur général, le docteur Mohamed Diagayeti.
L'Institut fait beaucoup de choses et a fait beaucoup de choses malheureusement qui dorment dans les tiroirs qui ne sont pas connus. C'est pourquoi mes amis et moi, Bruce Hall, qui est à l'université de Berkeley en Californie, et Mauro Nabli, qui est à l'université de Champaign-Urbana en Illinois, donc on a dit qu'il faut faire quelque chose pour que les travaux faits par l'institut soient connus. Donc c'est pourquoi nous avons monté ce projet. Heureusement, l'ambassade était attentive à notre requête, elle a accepté de nous appuyer.
Dans cette salle de catalogage, des mains expertes se chargent de renseigner les données des 28 732 manuscrits disponibles à Bamako dans la base. Le chercheur Boubacar Diallo explique qu'une fois le numéro du manuscrit, son titre, le nom de son auteur et le thème qu'il traite mis en ligne, il devient accessible au monde entier.
C'est pour mettre les manuscrits au portail de tous les mondes de savoir, à savoir les chercheurs, les enseignants, les étudiants, pour que tout le maximum du monde entier puisse avoir accès à ces manuscrits.
Les 38 245 manuscrits à l'actif de l'Institut, dont 10 487 à Tombouctou, 10 manuscrits rescapés de la crise, sont une mine de richesses traitant de nombreuses thématiques dont celle relative à la résolution des conflits. Dr Diagayeté estime que l'Institut peut jouer sa partition dans la résolution des conflits.
Ces manuscrits, nous avons des parties ou bien des données ou bien des thèmes qui traitent des résolutions des conflits. Et je peux juste donner un exemple. Nous avons Tazkirat al-Ghafilin an Qadh Ikhtilaf al-Mu'minin, un manuscrit écrit par exemple par Al-Hajj Omar, dans lequel il a tenté de réconcilier entre les deux amirs, Mohamed Bello, qui est amir de Socorro à l'époque, et Amir Borno, qui était en conflit. Donc nous avons des cas pareils. Effectivement, le manuscrit peut être l'inspiration quand même pour aller vers la réconciliation, la cohésion sociale et de vivre ensemble.
Avec la numérisation, la conservation physique et l'édition des catalogues pour les zones avec des difficultés d'Internet, l'Institut se bat pour perpétuer l'héritage des rédacteurs de ces manuscrits, c'est-à-dire rendre le savoir universel. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique, à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
Allons à présent au Bénin, à la découverte du mariage traditionnel par d'autres en travaux champêtres appelés Pompibou. Il s'agit d'une pratique ancienne des peuples natins bas dans le nord du pays. Le prétendant doit travailler gratuitement pendant 9 ans pour sa future belle famille avant de pouvoir se marier. Ce processus long et ritualisé implique les familles des deux partenaires et joue un rôle important dans la socialisation. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
À l'origine, Pompibou, le mariage traditionnel par dot en travaux champêtres, était le plus légitime. Chez les Natemba, en milieu Natini, dans le nord du Bénin, le mariage est une institution à laquelle on accorde une importance extrême. Le divorce n'existe pas, et quand vous vous entêtez, les conséquences sont grandes. Une fois dans les liens du mariage, vous y resterez à vie. Lawani Kituida est un cadre Natemba vivant à Cotonou.
Ce mariage n'a pas de divorce. Vous vous mariez pour l'éternité. Même si il y a séparation de corps et que la femme quittait pour aller rejoindre un autre homme, même si l'homme l'a fait des enfants là-bas, étant donné que c'est pas lui qui a doté la femme, il n'a pas droit aux enfants. Les enfants reviennent toujours au mari coutumier.
Les Natemba sont un peuple de la région montagneuse de l'Atakora dans la partie ouest du Nord Bénin. Chez eux, le respect des coutumes est un principe sacro-saint. Tansi Kouyo s'est mariée il y a près de 50 ans alors qu'elle avait à peine 12 ans.
Encore petit, quand mon mari est venu demander ma main à mes parents, il a travaillé pendant des années et il a payé tout ce qu'il y avait comme présent à offrir. Je sais que je ne dois pas quitter mon mari.
Pompibou fait partie de ces croyances traditionnelles que beaucoup ne comprennent pas, contrairement à Kouaro, qui a labouré la terre pendant 9 ans pour enfin épouser la fille que ses parents lui ont choisie alors qu'elle était encore au biberon.
J'avais 20 ans quand mes parents m'ont trouvé une femme. Elle était encore petite. Avec l'aide de mes frères, nous avons accompli des travaux champêtres chez ses parents pendant 9 ans exigés. Chaque année, j'offrais aussi des tubercules d'igname, le sorgho, le mil et autres. Au bout de 9 ans, une cérémonie a été organisée pour permettre à ma femme de me rejoindre. C'est ainsi que je me suis marié.
Cette tradition est basée sur un lien sacré, réputé indissoluble et difficile à rompre sans conséquence. Le processus séduit certains jeunes.
Pompibou, c'est pas aller dans le marché. On vient dans les églises se rencontrer, célébrer le mariage, non.
C'est pas comme aujourd'hui. Les gens se rencontrent sur les réseaux sociaux. Les garçons ne connaissent même pas les parents de la fille. Pompibou, ça valorise la femme. Parce que avant de gagner la femme là, il travaille durement. Et une fois la femme sera à la maison, donc il va la respecter.
Pour d'autres jeunes, ce type de mariage est une forme d'esclavage et un marché de vente de la femme.
C'est considéré comme une manière de vendre la femme. Elle était toute petite. Et son mari vient travailler pour qu'on lui livre après.
C'est une sorte d'esclavage pendant 9 ans.
Les femmes célibataires et les familles monoparentales, qui étaient autrefois très rares, pour ne pas dire presque inexistantes, refont surface dans la localité. Et ils sont nombreux, ces cadres ou non de la région, à appeler de tous leurs voeux au retour de cette coutume, peut-être pas dans sa forme rigide, mais l'adapter afin qu'elle soit respectueuse des droits des enfants et de la femme. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Merci Ginette, c'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal au micro. Yakuba Ouedraogo, Fatouma Kalala Alimassi à la réalisation. Au son, Kelvin Fowler. Ainsi va le monde aujourd'hui. L'info continue. Restez connectés sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOAfrique.